nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour Gilles Cantagrel.
Bonjour.
Vous êtes musicologue, historien de la musique, vous avez dirigé France Musique pendant de nombreuses années, produit donc des émissions de radio. Vous êtes correspondant à l'Académie des Beaux-Arts et vous êtes l'auteur de plusieurs livres consacrés notamment à Bach et à Buxtehude. Et dans votre ouvrage « La rencontre de Lübeck » paru aux éditions Des Clés de Brouwer, il s'agit d'un roman, doit-on immédiatement préciser. Vous imaginez le séjour à l'âge de 20 ans de Jean-Sébastien Bach dans la ville de Lübeck où il côtoie l'organiste Buxtehude. Une rencontre dont il revient transformé. Une rencontre qui a bel et bien eu lieu en 1705. On sait que l'influence de Buxtehude sur Bach est indéniable. Et à partir de là, vous avez conçu ce roman qui sonne tellement véridique grâce à vos connaissances musicales très approfondies. Quels sont les documents qui vous ont permis de travailler ?
Oh, il y en a directement à peu près pas. Je dois avouer que ce roman, qui est un roman sans tout à fait l'être, naturellement, m'a été suggéré alors que je partageait un repas amical avec le directeur littéraire de Des Clés de Brouwer, qui me questionne simplement sur ce voyage dont on sait qu'il a existé, le jeune Bach à l'âge de 20 ans, qui fait 400 kilomètres à pied par la route du sel, l'axe sud-nord de l'Europe, pour se rendre à Lübeck, écouter le maître absolu en son temps, qui était Buxtehude. Et cet homme me dit, mais que savons-nous de ce voyage, de ce pèlerinage, de cette rencontre ? Et je lui ai répondu, comme je le fais maintenant à votre question, on ne sait rien, quasiment rien, si ce n'est que Carl-Philippe Emmanuel Bach, le deuxième fils de Jean-Sébastien, après la mort de son père, nous dit que son père a toujours aimé rencontrer les compositeurs, lire leurs œuvres, les recopier, les assimiler, qu'il a cherché à tout connaître avec une boulimie de connaissances absolument extraordinaire, et qu'il a notamment été l'ami de, il cite Telemann, qui est le parrain d'ailleurs de Carl-Philippe Emmanuel, et qu'il a même fait le voyage à Lübeck pour rencontrer Buxtehude, de surcroît à pied. Il y est resté 3 mois, non sans profit, et s'en est retourné vers sa ville d'Arnstadt. Point final. On ne sait rien d'autre. On sait qu'il y est allé, qu'il y a appris quelque chose, non sans profit, et qu'il est resté 3 mois. Mais il se trouve qu'à son retour dans sa petite ville de province, il s'est fait houspiller, sévèrement réprimandé par les membres du consistoire, et ce jeune homme de 20 ans a comparu devant les vieux messieurs poudrés, emperruqués dans leurs vêtements noirs, qui lui ont posé des questions très embarrassantes, à laquelle il répond non sans effronterie d'ailleurs, « Qu'êtes-vous allé faire là-bas ?» Mais il répond simplement « Je suis allé apprendre diverses choses utiles à mon art. » Point final. Mais comment se fait-il ? Vous aviez demandé un congé d'un mois et vous êtes parti 4 fois, c'est-à-dire 4 mois. Ça corrobore exactement ce que dit Carl-Philippe Emmanuel. Et il répond, mais pourquoi ? Est-ce que je n'ai pas été bien remplacé ? Il ne répond pas sur le fond. La raison, c'est très facile. Il faut raisonner en termes d'aujourd'hui quelquefois quand on fait de l'histoire.
Alors qu'il était parti que pour un mois.
Il avait demandé un congé d'un mois. S'il avait demandé un congé de 2 mois et a fortiori de 4 mois, il ne l'aurait jamais obtenu. Donc, il s'arrange, il demande un congé d'un mois et puis on n'a plus de nouvelles. Bon, il n'y a pas de téléphone ni d'internet, donc il est un petit peu perdu. Bon, et il revient quand il estime qu'il a fait le plein de connaissances. Il en est saturé parce qu'il a été ébloui par cette rencontre. Et c'est à ce moment-là que l'éditeur me dit « Mais vous êtes sûr qu'on ne sait rien d'autre ?» Je dis « Non, voilà exactement quels sont les documents historiques. J'ai lu à peu près tout. » Bon, étonné que mon domaine d'élection me porte vers cette terre et vers cette époque. J'ai lu à peu près tout ce qu'on pouvait lire d'existant à ce sujet. Et je n'ai rien trouvé. Personne ne sait rien, sauf moi, parce que j'y étais. À force de fréquenter dans les textes, il me dit « Mais puisque vous y étiez, racontez. » Et c'est ainsi que je me suis improvisé romancier, si j'ose dire. Mais c'est un roman historique où, vous l'avez relevé, tout est vraisemblable. Tout aurait pu se passer comme je le dis. Je n'ai pas inventé de situation, de personnage, d'opinion qui ne soit vérifiable. J'ai simplement mis en situation. J'étais le metteur en scène, en quelque sorte.
Donc revenons au fait. Jean-Sébastien Bach est à l'époque organiste dans la petite ville d'Arnstadt. Il reçoit les conseils de Georg Böhm et entend parler de ce grand organiste et compositeur qui s'appelle Dietrich Buxtehude, qui vit donc à 400 km, qui vient quelquefois depuis Lübeck faire sonner l'orgue d'Arnstadt, mais qui, devenant vieux, ne fait plus le déplacement. Ça, on en est sûr ?
Non, il n'est pas allé à Arnstadt. Non, il allait à Hambourg. Et quand le jeune Jean-Sébastien, entre l'âge de 15 ans et 18 ans, était dans un lycée à Lüneburg, non loin de Hambourg, il est allé plusieurs fois, selon son fils, à Hambourg. Et là, peut-être aurait-il entendu Buxtehude. Je ne pense pas, Buxtehude était trop âgé à ce moment-là. Âgé pour l'époque, hein, il n'avait que 65 ans, ce qui à notre époque n'est pas grand-chose, mais dans une vie de labeur terrible, il était fatigué, il avait encore beaucoup à faire, mais il a entendu des élèves, des disciples, des amis de Buxtehude. Et puis, j'ai toujours été persuadé que Jean-Sébastien Bach, quand il était auprès de Georg Böhm, qui lui a appris l'orgue, quand il était au lycée à Lüneburg, entre 15 ans et 18 ans, avait eu, au travers de Böhm, la connaissance des grandes œuvres du répertoire d'Allemagne du Nord, notamment des deux maîtres, Reinken et Buxtehude. Or, il se trouve que l'année dernière, à la bibliothèque de la princesse Anna Amélie de Weimar, on a retrouvé un petit cahier dans lequel Jean-Sébastien Bach, lui-même, de sa blanche main, avait recopié l'œuvre la plus importante de Reinken et l'œuvre la plus importante sur le plan de la composition musicale de Buxtehude. Il avait 15 ans, il a dédié cette copie à son maître Böhm et il a daté de 1700, donc à l'âge de 15 ans. Donc on apportait enfin la preuve de cette hypothèse et j'ai eu le bonheur de voir ce cahier à Leipzig quand on venait de le découvrir et c'est extrêmement émouvant de voir ce futur génie universel de l'esprit humain à l'âge de 15 ans découvrir les deux plus grands compositeurs allemands de son temps et choisir dans toute leur œuvre ce qu'il est le plus remarquable. Déjà, avec une intuition et une sécurité de jugement absolue. Donc, il savait qui était ce Buxtehude. Il en avait entendu parler. Il connaissait les œuvres qui commençaient à circuler. La preuve, il en a copié une au moins, que l'on sache. Et puis, ce petit orphelin qui ensuite quitte le lycée n'a pas les moyens d'aller à l'université et d'avoir un enseignement supérieur. Il n'y a pas de conservatoire à l'époque. Eh bien, il faut qu'il commence à travailler. Il éblouit tout le monde. Il est violoniste, il est altiste, il est violoncelliste, il est claveciniste, il est organiste. Il trouve un poste d'organiste. Il commence sa vie professionnelle. Il a 18 ans. Mais il sait ce qui lui manque. Ce qui lui manque, c'est d'aller rencontrer, écouter, se mettre à l'école du plus grand maître allemand de son temps. Il le sait très bien. Et il va faire ce pèlerinage en choisissant très bien son moment, parce qu'il sait qu'il va y avoir des grands oratorios, il en a entendu parler, bien sûr. C'est le
à la
moment.
Mort de l'empereur Léopold voilà, Ier.
L'empereur Habsbourg, c'est très loin, Vienne. Mais comme c'était des villes libres d'empire, il fallait célébrer l'événement, mort de l'empereur, élection du nouvel empereur. Ça se passe au mois de mai, mais en 1705, mais on prévoit pour le mois de décembre. On a le temps de se préparer, de ravaler l'église, de préparer des tentures, des ornements, toute une mise en scène extraordinaire, et de demander au maître Buxtehude de composer deux grands oratorios, hélas perdus. Mais on a des descriptions dans les journaux de l'époque. C'était formidable. Et ça faisait appel à un grand renfort de musiciens. Il y a notamment un lamento qui est joué par 25 violons à l'unisson. Il n'avait que 10 musiciens à sa disposition. Donc il a dû faire appel à toutes les bonnes volontés. Je n'imagine pas que le jeune Bach, prodigieux, virtuose du violon, n'ait pas collaboré, naturellement. Et à partir de petits indices comme celui-là, je me suis amusé à raconter cette histoire imaginaire, mais je ne crois pas qu'elle soit imaginaire. Je suis presque sûr que ce soit passé ainsi.
Donc Buxtehude, à l'époque, a 68 ans. Il est organiste réputé dans toute l'Europe du Nord. Et il avait institué à partir de 1673 les concerts du soir, les fameux Abendmusiken, qui attirent tous les jeunes musiciens qui étaient désireux de rencontrer ce maître. Notamment, il avait attiré Nikolaus Bruns à l'époque, Händel, Matheson et puis Bach. Il y a même la petite anecdote que vous racontez vous dans votre livre où plusieurs compositeurs, notamment ces jeunes compositeurs que je viens de citer, auraient voulu succéder à Buxtehude à la chaire de
je vous vois venir.
d'orgue. Et il y a évidemment toute une histoire sentimentale que ne vous romancez pas trop autour de la fille de Buxtehude.
Voilà. Alors, il se trouve que ça, j'ai évoqué simplement en filigrane parce que c'est une évocation romanesque, mais depuis, j'ai écrit le le gros livre de 500 pages, qui lui est musicologiquement costaud, prouvé pour justement faire justice de cette histoire. On a raconté, on raconte encore de nos jours que Buxtehude avait fait comme condition pour obtenir sa succession au poste prestigieux qu'il occupait à Sainte-Marie de Lübeck, le fait que l'impétrant épousa sa fille, et que celle-ci, étant un laideron, avait fait fuir tous les prétendants. Alors, je suis allé regarder quand même d'un petit peu plus près, je me suis aperçu que si Buxtehude n'avait pas eu de fils, il avait eu 7 filles. Alors, je voudrais savoir de qui l'on parle. Il n'y a aucun document qui parle d'une laideur présumée. Ça, c'est de la pure fiction. Ce qui a fait dire ça, c'est que c'est un récit de Matheson qu'il écrit 40 ans plus tard, en disant, voilà, quand j'étais jeune, et que M. Buxtehude est vraiment été âgé, le conseil municipal de la ville de Lübeck s'était préoccupé de sa succession. Pourquoi ? Du vivant même de l'intéressé. Parce que l'organiste avait un rôle fondamental dans la société, dans la vie sociale de ce temps. Il faisait chanter les gens, il les faisait jouer, il remplissait leur cœur, leur esprit et leur sensibilité de musique. La musique jouait un rôle fondamental, ce qu'on a complètement oublié à notre époque. Et en plus, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de CD, il n'y avait rien du tout. Et donc, c'était, je dirais, le divertissement avec un D majuscule essentiel de toute cette société. Eh bien, Buxtehude, qui commence à donner des signes de faiblesse, on lui cherche un remplaçant. Et on avise un jeune musicien très talentueux et ambitieux qui est à Hambourg, qui est à l'opéra, bon, Matheson, et il vient. Et Matheson raconte, voilà, j'étais venu à cette invitation avec mon grand ami Händel, on se connaissait depuis 3 mois, on était devenus inséparables. Bon. Et nous avons été fort bien reçus, on a essayé tous les orgues, tous les clavecins possibles à Lübeck, mais au moment où nous avons appris la clause matrimoniale, ni Händel ni moi-même n'ayant la moindre inclination pour l'état de mariage, on parle pas de la laideur de la fille, pour l'état de mariage, nous avons pris congé et on nous a souhaité bon voyage le plus courtoisement du monde, et l'histoire s'arrête là. D'où cette idée un peu folle qui consistant à dire Bach lui aussi est venu pour prétendre à la succession, lui aussi a fui à toutes jambes quand il a vu la fille Buxtehude. Bon, à cette époque-là, Buxtehude avait sous son toit 3 filles célibataires, du même âge que les successeurs potentiels. Ce qui se passe, c'est que Matheson et Händel avaient, je ne sais pas, aujourd'hui on dit qu'ils avaient peut-être des relations homosexuelles, bon, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui est certain, c'est qu'ils avaient une ambition formidable, chevillée au corps, leur carrière ultérieure l'a prouvé, et qui ne se voyaient pas du tout, tout d'un coup, devenir
à Lübeck,
jusqu'à la fin de leur vie, administrateur des biens de l'Église, organiste tous les dimanches. Ça, ce n'était pas du tout dans leur ambition, et leur vie l'a prouvé. Jean-Sébastien Bach, quand il vient, mais au fond, il a 20 ans, il est déjà sans doute fiancé à sa cousine qui va épouser l'année d'après, et la fille aînée de Buxtehude est déjà certainement fiancée aussi à celui qui vient d'être nommé le suppléant avec promesse de succession de Buxtehude. Ça, personne ne s'en est soucié. Donc cette histoire-là tombe complètement à l'eau. Ce que je retiens de cette clause matrimoniale, c'est qu'il y avait, selon les témoignages de l'époque que j'ai quand même regardé de près, en effet, cette tradition, lorsque quelqu'un dans une profession libérale, qui n'était pas un fonctionnaire, un employé municipal, venait à décéder, il était courant, il était normal, dans la tradition en Allemagne du Nord, que le successeur s'arrangea avec la veuve contre un peu d'argent, disent les textes, ou épousa avec le consentement de l'intéressé, ou la veuve, si elle était en âge de se remarier, ou l'une des filles, ou un proche du prédécesseur. Eh bien, je ne trouve pas cela risible du tout, contrairement à ce que l'on dit souvent. On dit d'abord qu'on a ou bien la possibilité de racheter la charge, ce qui se fait encore de nos jours, dans certaines professions, racheter une clientèle ou une charge, ou bien de racheter la famille en quelque sorte par un mariage, cela assurait, à une époque où il n'y avait aucune allocation de vieillesse, de retraite, de maladie, d'aucune sorte, cela assurait une cohésion du tissu social qui pourrait nous faire réfléchir aujourd'hui. Au lieu de mettre les vieux dans des mouroirs, on les adoptait et on vivait tous sous le même toit, et je trouve que ça n'était pas plus mal.
Alors, venons-en peut-être à des propos musicaux plus sérieux.
Ah, ce que je dis est très sérieux, mais ça n'est pas musical.
Sur les rapports musicaux et forcément personnels entre Bach et Buxtehude, vous imaginez donc une liaison très forte qui a sûrement dû se nouer entre Bach et Buxtehude. Buxtehude qui a dû être impressionné par le génie très précoce de Bach. Il n'avait que 20 ans, mais ça devait déjà transparaître de façon très forte. Et évidemment, Bach qui a dû s'imprégner de l'art de Buxtehude. Vous citez certains éléments qui semblent tout à fait vraisemblables et j'aimerais y revenir avec vous. Vous imaginez que Buxtehude aurait appris au jeune Bach la possibilité de jouer dans cette fameuse tonalité, le fa dièse mineur, le ton de la chèvre, comme on l'appelait à l'époque, grâce au réaccordage de l'orgue, de façon à ce que le clavier ait un bon tempérament et soit bien tempéré. Un réaccordage qui a été pratiqué par le facteur d'orgue Andreas Werkmeister. D'où est-ce que vous tenez cette anecdote ?
Alors, bah écoutez, vous avez déjà presque tout dit. Il se trouve que, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est un petit peu technique, il n'est pas possible d'accorder un instrument à son fixe, à clavier donc, de façon totalement juste, pour que tous les intervalles sonnent sans battement d'une pureté parfaite. Donc, il y a deux solutions. Ou bien, on se borne à un petit nombre de tonalités simples, sans s'égarer ailleurs, do majeur, sol majeur, fa majeur, ou bien on triche sur les intervalles. Alors, tricher, on n'osait pas trop le faire, parce que Do, Mi, Sol, l'accord parfait, la trias harmonica, comme on disait en latin à l'époque, c'est le symbole de la Trinité, de la divine Trinité, donc de la perfection. On ne peut pas introduire une imperfection dans l'accord. Vous voyez qu'il y a toute une réflexion d'ordre théologique. Or, c'est l'époque où on sort de la connaissance théologique pour entrer dans la connaissance scientifique. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'effort d'un siècle de philosophes, de mathématiciens, de physiciens, des gens comme Leibniz, par exemple, comme Huygens, ont travaillé sur cette question, ont fait des propositions. Et c'est Werkmeister, vous avez cité son nom, qui est un mathématicien, mais en même temps un empirique, parce qu'il fabrique des orgues, qui propose une formule approchée, pouvant satisfaire tout le monde. Les tonalités restent bien différentes les unes des autres, comme sonorité, mais on peut passer de l'une à l'autre. Si bien qu'on va pouvoir jouer dans tous les tons, il n'y aura plus de limites imposées aux compositeurs pour créer. Et ça, Werkmeister le dit, il dit « Pourquoi imposerions-nous des contraintes aux compositeurs ? C'est à eux de pouvoir, les génies libres veulent... » Alors, il parle ensuite, il y a un jeu de mots allemand, il dit « les arts libres », ça veut dire « les arts libéraux », c'est un peu compliqué. Les arts libéraux, les libres, veulent des génies libres. Donc, il faut leur donner la possibilité de s'exprimer. Et donc, il invente ce système. Or, Werkmeister est un ami de Buxtehude, qui a préfacé un de ses ouvrages. Donc, ils se connaissaient. Donc, ils ont correspondu. Toute la correspondance est perdue, bien entendu. Je ne sais pas, avez-vous dans votre famille de la correspondance entre vos aïeux il y a 300 ans ? Je n'imagine pas, ça n'existe plus, ça. Eh bien, ils ont forcément correspondu, puisque ça a été imprimé. La préface en vers de Buxtehude a été imprimée dans un des traités de Werkmeister. Or, justement, quand le premier traité fondamental sur le nouvel accord des instruments à clavier, en adoucissant certains intervalles, en les tempérant, le clavier bien tempéré, on sait ce que ça va donner chez Bach, naturellement, et bien, quelques mois après, il fait réaccorder ses orgues de l'église Sainte-Marie, et au lieu des 2 jours habituels, ça prend 36 jours. Donc, il a fallu réorganiser, réaccorder de fond en comble. Donc, à l'évidence, c'est bien ça qui s'est produit. Il s'est mis à adopter les échelles nouvelles, ce qui lui a permis toute liberté pour moduler et écrire dans ce fameux ton de la chèvre, de fa dièse mineur. Pourquoi dit-on le ton de la chèvre ? Parce qu'il y avait des intervalles qui se mettaient à vibrer tellement, wow, comme ça, qu'on aurait cru des chèvres qui bêlaient. Bon, eh bien, c'est une image, c'est très imagé. Bon, eh bien, en cela, Buxtehude a été un artiste résolument moderne. Et quand le jeune Bach arrive et qu'il entend ses orgues accordé, lui qui avait une oreille particulièrement fine, naturellement, comme tous ces grands, il entend ces orgues qui leur permettent toute liberté, mais il est sidéré, parce que son petit orgue, quand il va revenir dans sa petite ville de province d'Arnstadt, il est encore accordé à l'ancienne. Il ne peut jouer qu'en do majeur, en ré majeur ou en fa majeur, ce qui est très ennuyeux. Et quand il revient, précisément, le consistoire lui fait un reproche terrible. Comment se fait-il, monsieur, que depuis votre retour de Lübeck, vous introduisiez dans vos improvisations, beaucoup trop longues d'ailleurs, des modulations telles que l'assemblée en est fort troublée. Donc on comprend bien qu'il y a eu un choc extraordinaire et que cette liberté que lui a montré Buxtehude, il l'a fait sienne. Et donc, il va être une sorte de libérateur. Et le témoin, ce sera le clavier bien tempéré. On peut désormais écrire dans toutes les tonalités comme on veut.
Quitte à ce que la tierce, ce fameux symbole de la Trinité, soit
Eh bien, la Trinité, elle vivra dans nos esprits, dans nos prières, que sais-je, mais pas sur nos claviers. Et c'est tout. Voilà.
Gilles Cantagrel, il est donc très probable que Bach ait affiné sa connaissance de la facture d'orgue dans sa généralité chez Buxtehude, dans la façon d'affiner, de réaccorder, etc. Notamment auprès d'un facteur d'orgue qui s'appelle Schnitger, qui lui est en désaccord avec Werkmeister.
Oui, c'est une supposition de ma part. Ça, je n'ai pas de preuve flagrante, mais Schnitger, qui était peut-être le plus grand facteur d'orgue de toute l'histoire de cet instrument, en une vie, il a construit 160 orgues en Allemagne du Nord, ce qui est exceptionnel et qui sont des chefs-d'œuvre. Ceux qui demeurent le prouvent, mais on sait justement par ceux qui demeurent et qui sont restés dans leur jus. Fermer les guillemets, comme disent les peintres ou les antiquaires, on sait qu'ils sont accordés au vieux tempérament et non pas au tempérament moderne. D'où mon extrapolation d'une conversation que j'ai imaginée, puisqu'on sait que Schlinger est passé par Lübeck juste à ce moment-là. Bon, entre Schlinger, Buxtehude et le jeune Bach de 20 ans assiste à cette conversation théorique que j'ai voulu aussi vivante que possible, entre le plus grand compositeur et le plus grand facteur d'orgue de son temps. Il n'en croit pas ses oreilles. Sa vie va être bouleversée, naturellement. Voilà, alors, qu'il ait connu la facture d'orgue, ça, je dirais que ça fait un petit peu partie du métier d'organiste. Vous savez, l'orgue, c'est une grosse machine où, avec de la mécanique, avec beaucoup de matériaux divers, il y a du bois, du cuivre, du fer, de la peau, de l'étain, ça joue plus ou moins en harmonie. Et donc, moi, j'ai pratiqué l'orgue aux messes du dimanche, dans ma jeunesse lointaine, mais chaque dimanche, je venais à l'église où je suppléais pendant 5 ans avec une musette, avec du fil de fer, du rouleau adhésif, une lampe de poche, une paire de pinces, parce que bon, ça avait forcément une panne sur ce vieil instrument. Et pendant la prédication, j'entrais dans l'orgue et je réparais. Les organistes sont toujours confrontés à ce type de problème. Un violoniste, il n'a pas ce problème. Un pianiste non plus. Si ça ne va pas, on fait appel au spécialiste. Il n'a pas à réparer lui-même. L'organiste a ça à faire. Et c'est tellement vrai que les organistes acquéraient généralement une connaissance pratique très importante. Buxtehude, par exemple, dont le père était organiste, a vu reconstruire 2 orgues alors qu'il avait 12 ans, 13 ans, 14 ans sous la conduite de son père. Donc, pendant ce temps-là, pendant que les facteurs d'orgue, les ouvriers étaient là en train de travailler, ben lui, le petit gamin, allait se promener dans l'orgue et les regarder faire et devait les interroger, leur poser des questions et tout apprendre. Et c'est tellement vrai que dans les contrats d'organiste, on n'a pas celui de Buxtehude, on en a 2 de Bach en tout cas, il était bien entendu que l'organiste devait assurer les réparations de son instrument, les petites réparations, ou les faire faire par quelqu'un de confiance, et puis alerter les autorités s'il y avait des travaux plus importants à faire exécuter. Donc il doit avoir cette connaissance. Et vous savez, pour bien jouer de l'orgue, il faut savoir un petit peu ce qu'on a au bout des doigts. Toute cette formidable machinerie, il y a quelquefois des tringles qui ont 15 mètres de long qu'on actionne avec le bout de ses doigts. Il faut savoir en gros comment ça marche pour bien comprendre comment on va appuyer sur les touches, comment on va les faire réagir l'instrument. Il y a une espèce de contact viscéral entre la machine et celui qui actionne la machine. Ça, c'est vraiment important. Et je pense que toute cette connaissance empirique, sur le terrain, sur le tas, comme on dit, que tous ces jeunes gens apprenaient, elle était essentielle dans le développement non seulement de leur carrière professionnelle, mais aussi de leur carrière de compositeur.
Alors, jusqu'où, d'après vous, est allée la transmission de savoir entre Buxtehude et Bach? Vous avez noté qu'ensuite, dans certaines compositions de Bach, on retrouve certains motifs, jusqu'à certaines citations des œuvres de Buxtehude. Et vous vous amusez à imaginer une situation à l'inverse, où Buxtehude, ayant entendu Bach improviser sur un thème, serait amusé à le reprendre le lendemain à l'église.
Ça, c'est de la fiction pure. Mais je suis à peu près sûr que ça s'est passé. C'est-à-dire, le jeune Bach arrive à Lübeck. Il savait ce qu'il allait trouver, que c'était la bonne période où on mettait en répétition les grands oratorios, où il aurait peut-être à se faire embaucher pour ça. Il a dû écrire à Buxtehude une lettre fort courtoise en annonçant sa venue, se recommandant de son maître Böhm, qui était ami de Buxtehude. Il arrive et j'ai imaginé que le premier soir, Buxtehude commence à lui poser quelques questions. Connaissez-vous telle chose? Il lui fait jouer du violon, il voit qu'il joue admirablement du violon. Je ne sais pas si ça s'est passé, mais c'est tellement logique. Hein, c'est comme ça que j'aurais fait à sa place, toute modestie mise à part. Et puis, il lui fait jouer du clavecin chez lui. Et alors là, Bach, évidemment, qui connaît le style de Buxtehude, il connaît déjà des œuvres de Buxtehude, il improvise à la Buxtehude. Et comme toujours, ce qu'il a toujours fait toute sa carrière, en essayant de faire mieux que son modèle. Toujours. Bach rebondit toujours sur des modèles existants pour dire, mais non, attendez, poussez-vous, je vais vous montrer ce qu'il fallait faire. Et il prend des modèles et il fait mieux, il pousse jusqu'à ces derniers retranchements, l'hypothèse suggérée par le modèle. Toujours. Et alors, j'imagine qu'il a improvisé dans le style de Buxtehude et que Buxtehude devait être sidéré. Et donc, la suite, c'est que le lendemain matin, il se retrouve à l'église et que c'est Buxtehude qui improvise sur le même thème, mais ça n'est plus à la Buxtehude, c'est du Buxtehude à ce moment-là, et il lui donne la plus formidable leçon qu'il puisse avoir. C'est magnifique.
Buxtehude restait le maître à l'époque.
Là, c'est le maître cette fois-ci. Oui, parce qu'il n'a jamais que 20 ans, il a beau être très doué, quand même là, il a le maître qui éclate dans tout son génie devant lui. Alors, vous faites allusion à cette relation. Moi, j'y étais, mais pas toujours dans tous les instants. J'imagine évidemment qu'entre ces deux-là, le contact a dû être prodigieux. Et vous savez, dans ce petit roman, il y a beaucoup de choses, de citations, de choses qui sont codées. Alors, ceux qui connaissent pourront décoder s'ils le veulent. Et je termine en disant que Buxtehude salue ce jeune aigle venu de Thuringe qui se retourne vers ses contrées natales. Et ça, c'est une citation que j'ai empruntée à Robert Schumann. La dernière visite qu'a Robert Schumann avant de se jeter dans le Rhin et d'être interné à l'asile d'Endenich est celle d'un jeune musicien de 20 ans dont il va parler comme le jeune aigle venu du Nord. Et c'est Brahms. Et Schumann a la conscience parfaitement claire qu'au moment où s'éteint sa vie de créateur, il remet le flambeau de la musique allemande dans les mains de ce jeune génie qui saura la faire vivre. Je suis sûr que Buxtehude, vous avez, c'est peut-être du roman, mais Buxtehude a dû avoir quelque part conscience de ce que la musique, lui qui est l'homme de la fin du XVIIe siècle, le jeune homme qui vient de le voir, tout jeune, donc pour le début du XVIIIe siècle, il va lui remettre le flambeau de la musique allemande. Pour moi, c'est évident. Il lui transmet forcément une certaine conception de la musique, une conception spirituelle de la musique, une vision, une métaphysique, une Weltanschauung, comme on dit en allemand, une conception du monde, qui est une conception spirituelle. Toute œuvre de Buxtehude nous parle de la création, nous parle de Dieu par des moyens musicaux, comme chez Bach. Là, en cela, la musique de Bach est vraiment différente en bien des aspects de celle de Buxtehude, mais là, on voit qu'il y a une filiation qui est d'ordre spirituel, au moins autant que technique. Bon, en plus des citations, de certains synchronismes très frappants, la Passacaille de Buxtehude est certainement une très très savante, une de ses dernières œuvres, et la Passacaille de Bach doit être écrite peu après son retour. Il prend appui, il prend modèle en montrant qu'il peut aller beaucoup plus loin, encore que le maître vénéré, parce que lui a le génie absolu, même si Buxtehude est un très grand compositeur. Et il se le prouve à lui-même et il le prouve aux autres. Et on a maints exemples de ce type. Et on voit surtout comment le jeune Bach va, quand on connaît bien l'œuvre musicale de ces deux grands, de ces deux immenses musiciens, on voit très bien comment tout ce qui, chez Bach, procède de Buxtehude. Et ce qu'il en fait, Bach est un, pardonnez-moi, c'est vilain ce que je vais dire, est une sorte de ruminant. Je vais dire mieux, c'est une sorte d'abeille qui va faire son miel en ayant butiné de toutes parts. Mais quand je dis il rumine, il ressasse, il médite tout ce qu'il a pu lire, copier, entendre sans arrêt, jusqu'à en faire son œuvre à lui. Il fait son miel de tout son vécu, de tout ce qu'il a pu lire, de tout ce qu'il a pu méditer, et surtout de toutes les musiques qu'il connaît. À ce point que, dans ces dernières années, Jean-Sébastien Bach va créer progressivement ce langage immédiatement reconnaissable, inimitable, qui est le sien, qui est une sorte de langage universel de la musique. Et Bach vieux fait dans sa musique une sorte de synthèse de toute la pensée musicale européenne, de l'Europe occidentale, des origines jusqu'à lui. Et c'est presque la porte étroite par laquelle passe toute la musique. Si on n'avait rien d'autre que Bach, on aurait l'essentiel syncrétique de toute la pensée occidentale. Et c'est tellement vrai que tous les musiciens qui viennent après procèdent de lui d'une façon ou d'une autre, et le disent la plupart du temps. Déjà Beethoven qui dit « il est la source originelle de toute musique, die Urquelle aller Harmonie », dit-il tout le temps, jusqu'à Pierre Boulez qui cite le thème B.A.C.H. Bach dans sa deuxième sonate de piano, tout le temps. Et donc j'emploie volontiers l'image pour l'histoire de la musique d'un gigantesque sablier. Il y a tout ce qui a été fait avant, et puis l'espace, le goulet d'étranglement le plus étroit, ça c'est Bach. Tout passe par lui, et ensuite va et procède de lui. Et donc, en cela, il a également procédé de Buxtehude. C'est donc la transmission d'une sagesse, la transmission d'une pensée musicale. Penser la musique aujourd'hui, comme dit Boulez précisément, et pas seulement de moyens techniques. Pour moi, c'est une évidence. Et qu'il y ait eu un accord très profond, intime, violent entre ces deux êtres, c'est la pure fiction. Mais il ne peut pas en avoir été autrement.
Et qu'est-ce qui, dans les détails, si on peut revenir dans les détails, qu'est-ce qui, dans la musique de Bach, procède directement de la musique de Buxtehude? On parlait un tout petit peu plus tôt d'accords que Bach ose enfin après son passage à Lübeck. Est-ce qu'il y a d'autres choses techniques dans la façon de composer une fugue dans...
Oui, exactement. Il y a, par exemple, je dirais sur le plan strictement technique, l'usage du pédalier. Vous savez qu'à l'orgue, il y a non seulement des claviers manuels, mais également un clavier actionné par les pieds, avec quand même deux octaves et demie, selon les cas. Et Buxtehude était un virtuose du pédalier. Il a même été le premier de toute l'histoire à écrire des parties de pédalier indépendantes. Quelquefois, il y a le pédalier tout seul qui fonctionne, ce qui lui permet d'avoir, par exemple, un thème au pédalier et de faire des variations avec les claviers manuels. Bach est un formidable virtuose du pédalier. Il n'a peut-être pas attendu Buxtehude pour le devenir, mais il a eu là l'exemple très frappant, sidérant même, d'œuvres qui traitent la partie de pédalier à parité avec les parties de manuel. Et ça, de ce fait, il a fait progresser de façon considérable la technique du jeu de l'orgue. Ça, c'est sous l'aspect technique. Dans ces prélude de chorale. Vous savez que chez les luthériens, on chante beaucoup de cantiques, on les chante tous ensemble, d'où leur nom de chorale, et que chaque fois qu'on entonne un chorale, que ce soit à la maison, à l'école ou à l'église, eh bien, il y a quelqu'un qui se met au clavier pour rappeler la mélodie, pour donner le ton, en quelque sorte, ce qu'on appelle préluder au chorale. Dans ces préludes de chorale, Buxtehude lui-même ne se contente pas de rappeler le ton avec quelques accords. À sa façon, il chante le chorale et il le commente. Il le commente comme le prédicateur en chair. Et au même titre, il se prend même pour quelqu'un, je suis sûr, d'encore mieux, d'encore plus efficace que le prédicateur, puisque, comme le disait Luther, qui a repris ça à Saint-Augustin, son maître, celui qui chante prie doublement. Donc, il chante avec les paroles, qui sont au moins sous-entendues, là, et avec la musique. Donc, il ne peut pas se contenter simplement d'une petite mélodie, il l'orne, il la transforme pour la rendre plus éloquente, plus persuasive, pour nous parler de ce que le texte nous dit. Et ça, Bach l'a pris directement chez Buxtehude, qui est vraiment là le prédécesseur immédiat. Et il développe, comme toujours, il va aller encore plus loin. Ça vient de chez Buxtehude. Dans l'autre versant de la production, pour l'orgue, pour ne parler que de l'orgue maintenant, il y a ces fameux préludes qui servent à accueillir les fidèles dans une église ou avant l'exécution d'un oratorio, que sais-je, les préludia, comme on disait, qui sont chez Buxtehude organisés dans une espèce de mosaïque invraisemblable d'épisodes très sérieux, fugués, d'autres épisodes complètement libres avec des accords vertigineux, des espèces de récitatifs. Tout ça a été théorisé d'ailleurs à l'époque baroque et on appelait ça le stylus fantasticus. Pas besoin de traduire, tout le monde comprend que cette extrême liberté de l'imagination là-dedans. Bach va être très impressionné par ça. Il connaissait déjà, avant de rencontrer Buxtehude, par les partitions. Mais là, quand il a entendu ça dans cette immense église de Sainte-Marie qui avait 110 mètres de long et 40 mètres de haut sur ses grands orgues avec le génie qui était au clavier, il a dû être complètement renversé. Bon, eh bien, il a repris tout ça, mais il a ordonné le tout, parce que c'est un génie de l'ordre en même temps. Ça, c'est son aspect intellectuel. Je dis volontiers de Bach que c'était un intellectuel voluptueux. Eh bien, ça, c'est le côté intellectuel, pour le coup. Et grâce ensuite à tout ce qu'il aura appris, notamment chez les maîtres italiens du concerto, qu'il va connaître par la suite, il va petit à petit rationaliser, organiser autrement cette fantaisie. Il va garder la fantaisie, mais il va lui donner une amplification et organiser le tout, notamment, au lieu d'avoir des épisodes de préludes, de fugues, tout ça mélangé, il va faire des préludes séparés avec des fugues qui leur sont associées en deux grands morceaux et développer complètement la structure de la fugue. On n'est jamais allé plus loin. Même quand Beethoven écrit des fugues, il se réfère à Bach, toujours. Et donc ça vient directement de Buxtehude, mais il n'y a jamais d'imitation servile. Il s'est nourri de ça et ça a été un formidable stimulant, un catalyseur pour ce génie incommensurable qu'est Bach.
Thank you.
Gilles Cantagrel, est-ce qu'on ne peut pas imaginer non plus que l'influence de Buxtehude sur Bach se soit exercée également sur l'efficacité des oratorios ou des passions, sur l'efficacité de leur mise en scène ou sur leur message direct qui vient appuyer ce que vient de dire le pasteur?
Ça, j'aimerais pouvoir vous répondre, et je ne peux pas parce que tous les oratorios, les fameuses musiques du soir dont vous rappeliez l'existence tout à l'heure, les veillées d'oratorios, 5 dimanches de suite avant Noël, pendant 40 ans, donc 200 partitions, tout est perdu. Il y en a une anonyme qui pourrait être de Buxtehude, moi je ne suis pas très convaincu, qui vient d'être enregistrée. Bon, sur le jugement dernier, je ne suis pas très sûr, Buxtehude peut faire mieux, tout est perdu. Alors, il nous reste ce qu'on appelle des cantates, improprement, ce sont les concerts spirituels, des arias spirituels, comme on faisait Schütz et les prédécesseurs de Buxtehude, certaines avec un grand effectif, donc qui peuvent nous mettre sur la trace de ce qu'étaient, sans doute, ces fameuses veillées musicales, c'est tout ce qu'on sait. Mais, évidemment, Bach a dû prendre là-dedans, parce que, il a 20 ans quand il vient là. Il est en poste depuis 2 ans dans une petite ville où il ne fait que jouer de l'orgue. Il rêve de grande musique avec des instruments, des chœurs, des voix. Il ne peut pas en faire. Il n'est pas payé pour ça. Et de toute façon, il n'y a pas les moyens dans sa petite ville. C'est son rêve le plus cher. Et là, il va entendre son rêve prendre chair, prendre corps. Alors, évidemment, tout ça l'a nourri. Il va en faire autre chose, surtout après ça, avec les contacts avec l'Italie, etc. Mais on voit bien comment Buxtehude a été l'un des agents de transmission de la grande musique des concerts spirituels de l'Allemagne du Nord, de Schütz, enfin, du Nord et du Centre, de la tradition vieille allemande, de Schütz et des autres, et de Hammerschmidt et des autres, et comment Buxtehude est l'agent de transmission vers Bach. Et les premières cantates, je mets encore des guillemets parce que ce sont des concerts spirituels, comme Christ à Todesmann, la magnifique cantate pour le matin de Pâques, Christ gisait dans les liens de la mort, ou l'Actus Tragicus, encore plus, qu'il écrit à 22 ans. On voit presque au retour de Lübeck, on voit très bien comment il s'est nourri de tout ce qu'il a entendu. Aussitôt, il fait autre chose. Mais cette façon qu'il a de mêler des citations des Écritures, des poèmes spirituels contemporains, des petits épisodes dans une espèce de marqueterie fascinante, mais ça nous paraît un petit peu désordonné à première vue. Il y a une cohérence, une logique totale. Ça vient de chez Buxtehude. Et Buxtehude est quelqu'un qui, et là je vais aller un petit peu plus loin si vous voulez, que la musique vocale, et c'est peut-être une des choses les plus précieuses qu'il a pu apprendre à Bach, ou que Bach a apprise au moins en lisant ses œuvres, c'est d'arriver à proposer des œuvres qui nous fascinent par leur diversité, leur variété, alors qu'on est en même temps impressionné par un sentiment d'unité qu'on ne sait pas expliquer. Et quand on fait l'analyse musicale, rassurez-vous, je ne veux pas entrer dans les détails analytiques, mais on s'aperçoit que tous ces épisodes en marqueterie, comme ceux que je citais dans les premières cantates de Bach, ou dans la musique vocale de Buxtehude, ou dans sa musique instrumentale encore plus, résultent en fait de l'utilisation, le choix d'une toute petite cellule de 4 notes, de 5 notes, qui va transformer, développer, agrandir, rétrécir, renverser, retourner, et qui va unifier, sans qu'on en ait conscience, qui va unifier l'œuvre. Donc on va avoir ce principe de l'identité dans la diversité, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Leibniz, contemporain de Buxtehude, le plus grand philosophe mondial de ce temps, après Descartes, son prédécesseur, et Leibniz a en quelque sorte théorisé l'art baroque. L'identité dans la variété, le multiple qui se déduit de l'unique. Donc il y a, comme dans les Passacailles et les Chaconnes, toutes ces pièces à variation, où on répète obstinément, presque mécaniquement, un petit motif très simple, obstinément répété donc, mais sur lequel s'échafaude tout un morceau, toute une polyphonie, avec des variations de plus en plus complexes. On a oublié le thème principal, et si on ne nous le répétait pas au pédalier, souvent, on l'aurait perdu de vue. Toute cette diversité, elle était l'image, au fond, du monde créé. Et le monde créé, bon, un chimiste vous dira que c'est la cellule élémentaire du carbone qui s'est développée et qui a créé toute la matière vivante. Eh bien, là, il y a une vision spirituelle, c'est-à-dire, au commencement de l'œuvre, il y a cette petite cellule fondatrice, le verbe fondateur. Au commencement était le verbe, et tout ce qui a été fait dans l'œuvre a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Je cite le prologue de l'évangile de Jean, bien entendu, mais toutes ces personnes étaient totalement imprégnées de la Bible et de l'évangile, et traduisaient en quelque sorte, non pas mot à mot, mais traduisaient la pensée évangélique ou la pensée biblique dans leur musique. Et là, on en a une démonstration, mais absolument évidente, et Bach fait ça tout le temps, naturellement.
Il
a appris chez Buxtehude.
Gilles Cantagrel, un de vos travaux, vous vous employez à réhabiliter la mémoire de Dietrich Buxtehude, dont on fête cette année les 300 ans de la mort, en 2007. Buxtehude qui reste à votre goût trop méconnu?
Ah oui, même en Allemagne. Bon, je fréquente beaucoup, évidemment, l'Allemagne. Là, je reviens de Leipzig. Je ne serais pas une deuxième patrie, mais enfin, c'est un petit peu normal quand on travaille sur Bach comme je le fais depuis un demi-siècle. Eh bien, je m'aperçois que même en Allemagne, il n'est pas très connu. Il est peu connu. Assez curieusement, le premier grand livre qui ait été écrit sur Buxtehude dans toute la littérature mondiale en 1913 était le fait d'un Français, le musicologue André Pirot, avant les études allemandes. Antérieurement, et maintenant d'ailleurs tout le monde y fait référence. Mon ouvrage prend modestement la suite de Pirot, mais presque un siècle après. Il était quand même grand temps qu'on s'en préoccupe. Et je peux vous dire que même dans la littérature musicologique mondiale, il y a très peu d'ouvrages aujourd'hui, mais ça vient, enfin. Et pourquoi? Eh bien peut-être que l'arbre Bach a un petit peu caché la forêt de ses prédécesseurs ou de ses contemporains, c'est possible. Mais il faut oublier cette idée que Buxtehude ait été le Saint Jean-Baptiste annonçant l'arrivée du Messie, que sais-je. Non, ça n'est pas un précurseur, c'est un musicien à part entière, c'est un génie de la musique à part entière. Et dans cette deuxième moitié du XVIIe siècle, où il a œuvré, je le mets à égalité en Allemagne du Nord, avec Henry Purcell en Angleterre, Marc-Antoine Charpentier en France, Arcangelo Corelli en Italie, ce sont les grands phares de la musique du baroque médian, de cette époque-là. Et qui se distingue complètement de ce qui est avant, de ce qui est après. Il n'est pas un précurseur, il est un compositeur à part entière, avec cette sensibilité frémissante qui vous arrache des larmes parfois. Il a écrit à la mort de son père très vénéré, qu'il avait accueilli chez lui à la fin de sa vie. Et quand son père, qui était son initiateur à l'orgue, meurt, il compose un poème de 7 strophes, le chiffre 7 auquel il tenait tant, le chiffre de la Genèse, naturellement. Il compose lui-même un poème en allemand et une élégie. Écoutez, je ne vous dirai pas combien de personnes, hommes, femmes, jeunes ou vieux, j'ai vu pleurer en écoutant cette œuvre-là. C'est bouleversant, un peu comme le O Solitude de Purcell, si ça dit quelque chose aux éditeurs. Ce sont des musiques d'une expressivité émotionnelle intense, moins formelle apparemment que ce qui l'on entendra au siècle suivant. Il y a quelque chose qui est presque plus spontané en apparence dans les registres de l'émotion. Donc, il était temps vraiment qu'à notre époque, on redécouvre un peu ce musicien. Depuis des années, j'en parle à des amis musiciens et je peux vous dire que maintenant, il y a dans quelques temps, un grand concert de cantate de Buxtehude par John Eliot Gardiner à Paris. Donc, c'est vous dire, William Christie en joue, Christophe Coin en joue, René Jacobs, Ton Koopman, tout le monde joue maintenant du Buxtehude et en enregistre enfin. Et je suis sûr que ça va être un enrichissement. Je ne suis pas l'apôtre de Buxtehude. J'aime passionnément Debussy, Monteverdi, Wagner, Berlioz, qui vous voulez. Mais là, j'ai bien conscience, dans ce domaine où je me suis spécialisé, qu'il s'agit d'un très grand musicien qu'on a tous intérêt à découvrir. Il va nous apporter encore beaucoup d'émotions et de joie.
Merci beaucoup, Gilles Cantagrel, pour ces précisions sur les relations entre Jean-Sébastien Bach et Dietrich Buxtehude. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez trouver le livre « La rencontre de Lübeck » aux éditions des Clés de Brouwer, ainsi qu'un livre consacré à Dietrich Buxtehude, paru chez Fayard.
Au mois d'octobre 2006, donc à point pour la célébration du tricentenaire de sa mort, tout simplement.
Merci beaucoup, Gilles Cantagrel.
Merci à vous.